La Marche du Monde présente African Queens, ces femmes qui ont changé l'Afrique. Une collection documentaire proposée par Valérie Nivelon.
Épisode 6, les Sœurs Nardal, phénomène éditorial. Elles s'appellent Jane et Paulette Nardal et elles incarnent la modernité noire dans les années 20 et 30. Petites filles d'esclaves nées en Martinique, elles font partie des premières étudiantes antillaises venues étudier à la Sorbonne à Paris. Devenues écrivaines, traductrices et journalistes, Jane et Paulette reçoivent dans leur célèbre salon littéraire de Clamart les grands noms du mouvement culturel afro-américain et africain francophone. Vous ne connaissez pas leur nom, et pourtant, Jane et Paulette Nardal sont les autrices d'une œuvre théorique et littéraire qui préfigure à bien des égards la négritude. Les Sœurs Nardal, mises à l'honneur par la publication simultanée de trois ouvrages en avril 2024. Je veux parler de la toute première biographie consacrée aux Sœurs Nardal, signée Léa Mormin-Chauvac et publiée aux éditions Autrement. De l'anthologie Écrire, Le Monde Noir aux éditions Rodebeau Creek, dans laquelle Brent Hayes Edwards et Eve Giannocelli rassemblent pour la toute première fois les articles, récits et nouvelles de la période parisienne de Paulette Nardal. Et enfin, toujours aux éditions Rodebeau Creek, de la traduction en français, 20 ans après sa première publication aux États-Unis, du livre référence de Brent Hayes Edwards, Pratique de la diaspora, dans lequel il consacre un long chapitre à Jane et Paulette Nardal. De passage à Paris, le professeur Brent Hayes Edwards est notre invité sur RFI. Les Sœurs Nardal, pionnières de l'internationalisme noir, c'est un nouvel épisode de La Marche du Monde, à l'occasion de la traduction en français du livre majeur de Brent Hayes Edwards, intitulé « Pratique de la diaspora », un Américain à Paris qui nous fait l'honneur de s'exprimer en français. Bonjour Brent Hayes Edwards.
Bonjour.
Vous êtes un chercheur états-unien, vous enseignez la littérature à l'Université Columbia, à New York. Vous êtes un spécialiste des littératures noires, de la politique culturelle à Harlem et à Paris dans les années 20 et années 30. Vous êtes également intéressé par le surréalisme, le jazz, la traduction. Comment vous avez rencontré les Sœurs Nardal, qui sont pourtant des figures méconnues ?
Ça remonte à l'époque où je vivais à Paris et j'étais en train de commencer des recherches pour ma thèse, ce qui était à l'époque ma thèse. Après, c'est devenu « Pratique de la diaspora », qui était mon premier livre. Donc en anglais, ça s'est publié il y a 20 ans. Mais à l'époque, j'essayais de tisser, de trouver des manières d'encadrer l'histoire des correspondances, à des échanges, des dialogues entre Noirs francophones et Noirs américains. Parce que je voulais essayer de comprendre c'était quoi le rapport entre la Renaissance de Harlem aux États-Unis et ce qui allait devenir la négritude pendant les années 30 en France. Et je cherchais des intellectuels, des artistes, des romanciers, des écrivains, des musiciens qui avaient des liens comme ça, ou qui, pour les Américains, qui vivaient à Paris. Et pour moi, les Nardal, c'était un exemple clé, parce qu'elle, elle est là une décennie avant les jeunes étudiants de la négritude, Aimé Césaire, Léopold Senghor, Léon Gontran Damas, les soi-disant pères de la négritude, viennent tous les trois à Paris au début des années 30. Paulette Nardal, la première antillaise a étudié, la première noire a étudié à la Sorbonne. Elle est là 10 ans auparavant. Donc c'est elle en fait qui introduise, qui présente chez elle, dans son salon, ces jeunes antillais et africains, ces jeunes étudiants à l'époque, aux intelligentsia, aux intellectuels qui viennent de New York.
Donc, si je vous suis bien, Brent Hayes Edwards, il y a aussi une correspondance avec votre intérêt pour les circulations des cultures noires sous des formes les plus diverses, le jazz, la danse, en passant par la littérature que vous venez de citer. C'est aussi cet intérêt pour la culture et la circulation de la culture noire qui vous a conduit jusqu'au Sœur Nardal.
C'est ça. Mon livre, ce qui était ma thèse, qui est devenu le livre, ça s'appelle « Pratique de la diaspora » et c'est ça l'idée que la diaspora, cette idée d'une communauté raciale qui dépasse les frontières nationales et linguistiques, que c'est pas donné, c'est pas quelque chose de déjà établi. Il faut bâtir quelque chose, des liens. Et pour moi, c'est surtout dans des revues, dans des journaux, dans des lettres, dans des traductions. C'est pour ça que je m'intéresse tellement à la traduction. Et Paulette Nardal, encore, c'est une figure clé parce qu'elle est étudiante, quand elle vient à la Sorbonne, elle est étudiante de l'anglais, en fait. Elle parle couramment l'anglais et elle traduise, elle travaille en tant que traducteur.
Voilà, parce que Paulette et sa sœur sont antillaises. Pourquoi, selon vous, si elles sont si importantes dans l'histoire du monde noir, qu'ils soient antillais, africains, africains-américains, pourquoi elles ont été oubliées, voire invisibilisées?
Ça, c'est une question compliquée. Mais ces écrits, c'est surtout des articles, des récits, des fictions, des petites nouvelles, ils sont un peu, malheureusement, éparpillés dans des publications éphémères. Elle n'a jamais publié un livre, même si elle faisait partie de L'étudiant noir, qui est la première revue de l'époque. Elle est là-dedans avec Césaire et Senghor, dans les débuts de la négritude, mais dans un tout petit texte, magnifique, mais un peu à côté, un peu dans les marges, et dans la genèse de la négritude, parmi ces jeunes étudiantes comme Césaire et Senghor et Damas, qui sont venus un peu plus tard, elle est un peu mise à côté, elle est un peu oubliée par eux.
Est-ce qu'elle est oubliée par les pères de la négritude, Senghor, Gontran Damas, Césaire, ou est-ce qu'elle est un peu poussée à côté par les soi-disant pères de la négritude, Brent Hayes Edwards?
On pourrait se demander la question. Déjà, je crois, surtout avec Césaire, qui est martiniquais comme Nardal, mais plus jeune, il est plus politique, dans une manière ouverte chez lui. Je crois qu'il y a une tension de classe aussi, que Nardal, elle vient d'une famille assez privilégiée.
On entend souvent cette critique, les sœurs Nardal, ce sont des bourgeoises, et en plus, elles sont réactionnaires.
Oui, c'est... Elle-même, Paulette Nardal, elle a des textes où elle dit « Quand je suis arrivée à Paris, j'avais l'impression que j'étais une petite bourgeoise française. C'est à Paris que j'ai appris à comprendre ma, soi-disant, différence. » Mais ce qu'on voit dans les écrits, surtout avec ses écrits, ses articles dans Le Soir, dans ce journal à la fin des années 20, début des années 30, elle s'intéresse vraiment dans le politique international de l'Empire et des empires, parce qu'elle écrit beaucoup sur les événements politiques aux États-Unis, en Inde, elle parle de Gandhi, elle parle de l'Afrique du Nord, mais elle apprend le milieu politique, même si elle prétend ne s'intéresser pas trop.
Et il y a cette fameuse revue, la Revue du Monde Noir, et c'est bien dans cette revue que Paulette Nardal signe ce texte publié en 1932, « Éveil de la conscience de race ». Pourquoi, de votre point de vue, ce texte est-il à la fois fondateur et novateur ?
Et on pourrait ajouter « oublié », parce que ça va avec, au moins pour moi. Je crois que ça, c'est aussi ce qu'elle dit là-dedans, dans ce texte en particulier. Ça fait partie des raisons qu'elle est un peu mise à côté ou oubliée par les pères de la négritude. Même l'idée de père, l'idée que c'est l'expérience masculine, c'est l'expérience des jeunes étudiants, des mâles, qui compte. Ce qu'elles mettent en avant dans cet article, qui est très important, mais un peu oublié, surtout par les Sangors et les Césaires et les Damas, c'est qu'elles revendiquent l'expérience des femmes, des étudiantes à la métropole. Elle dit qu'en fait, c'est elles, surtout les jeunes étudiantes, femmes, qui ont compris leurs différences, qui ont dépassé l'assimilation à la métropole. Les jeunes étudiants, les jeunes garçons, ils étaient plus privilégiés, ils étaient plus assimilés. C'était plus facile pour eux, ça leur a pris plus de temps pour se rendre compte de la différence de la race.
Éveil de la conscience de race, publié en 1932 dans la revue du Monde Noir, Sophie Janin nous fait la lecture.
Les femmes de couleur, vivant seules dans la métropole, moins favorisées jusqu'à l'exposition coloniale que leurs congénères masculins au facile succès, ont ressenti, bien avant eux, le besoin d'une solidarité raciale qui ne serait pas seulement d'ordre matériel. C'est ainsi qu'elles se sont éveillées à la conscience de race. Après s'être docilement mises à l'école de leur modèle blanc, peut-être ont-elles passé comme leurs frères noirs américains par une période de révolte. Mais plus mûres, elles sont devenues moins sévères, moins intransigeantes, puisque tout est relatif. Leur position actuelle est le juste milieu. Au cours de leur évolution, leur curiosité intellectuelle s'est tournée vers l'histoire de leur race et de leur pays respectifs. Au lieu de mépriser leurs congénères attardés ou de désespérer de voir jamais la race noire arriver à égaler la race aryenne, elles se sont mises à l'étude.
Extrait de l'éveil de la conscience noire de Paulette Nardal, ou comment égaler la race aryenne. Un vocabulaire qui raconte toute une époque, Brent Hayes Edwards.
Ce qui est très important de comprendre là-dedans pour moi, c'est que c'est la conscience de race qui suit d'un certain féminisme. C'est ça ce qui est très important chez elle. Et c'est ça ce qui est un peu oublié ou mis à côté par les pères de la négritude. C'est assez extraordinaire. Il y a quelque chose de critique là-dedans qui est très important et je dirais... Même, j'oserais dire que c'est un côté féministe chez Nardal qu'il faut reconnaître.
Qu'est-ce que Paulette Nardal veut dire quand elle dit « leur curiosité intellectuelle s'est tournée vers l'histoire de leur race » ? Qu'est-ce qu'elle a étudié ?
Bon, dans les vieilles colonies, à Fort-de-France, à Martinique, à Guadeloupe de l'époque, à les jeunes martiniquais, guadeloupéennes, ils ont été instruits. Ce que les Nardal, Paulette et ses sœurs appellent la formation latine, éducation classique à la française. Et elle en est fière, en fait. C'est pas qu'elle est en train de rejeter ça. Au contraire, elle dit que, à côté des Noirs américains, des Afro-américains, il faut penser le destin d'une autre communauté, les Afro-latins. Ils ont appris, nos ancêtres, les Gaulois, à toute la formation normale d'un Français de l'époque.
Paulette, comme Jane, formée à la culture occidentale de l'école primaire jusqu'à la Sorbonne, ne rejette pas le monde blanc, bien au contraire. Voici ce qu'écrit Paulette, toujours dans son article de 1932, « Éveil de la conscience de race ».
Faut-il voir dans les tendances que nous exprimons ici une implicite déclaration de guerre à la culture latine et au monde blanc en général ? C'est une équivoque que nous nous en voudrions de ne pas dissiper. Nous avons pleinement conscience de ce que nous devons à la culture blanche et nous n'avons nullement l'intention de l'abandonner pour favoriser je ne sais quel retour à l'obscurantisme. Sans elle, nous n'eussions pas pris conscience de ce que nous sommes. Mais nous entendons dépasser le cadre de cette culture pour chercher à l'aide des savants de race blanche et de tous les amis des Noirs à redonner à nos congénères la fierté d'appartenir à une race dont la civilisation est peut-être la plus ancienne au monde.
Comment comprendre la pensée de Paulette Nardal ? Elle fait l'expérience du racisme à Paris. Pour autant, elle se refuse à déclarer la guerre au monde blanc, comme elle le dit dans l'extrait que nous venons d'entendre. Brent Hayes Edwards, est-ce que ce n'est pas contradictoire de vouloir d'un côté ne pas abandonner la culture blanche et de l'autre retrouver la fierté d'appartenir à une race dont la civilisation est peut-être la plus ancienne du monde ?
Pour elle, on pourrait dire que c'est une contradiction, mais pour elle, ça va ensemble. Elle est mélangée dans cette manière-là. Elle dit qu'elle appartient à une culture métisse, qui est française, mais qui est aussi une culture qui a des racines qui vont au-delà de la France. Parce que les racines des afro-descendantes qui remontent jusqu'à l'Afrique, c'est la diaspora, c'est plus grand que n'importe quelle nation. C'est pour ça que cette revue s'appelle la revue du monde noir. Ce n'est pas la revue de la France noire. Ce n'est pas la revue des Antilles. C'est la revue du monde noir.
Est-ce que là aussi, Paulette est innovatrice? Ou bien est-ce qu'elle s'inspire d'autres intellectuels noirs? Mais peut-être aussi a-t-elle été inspirée par d'autres auteurs africains-américains?
Pour moi, c'est plutôt les noirs américains, en fait. À Senghor, il faut se rappeler, il est jeune. Il arrive, c'est les années 30 où Senghor arrive à Paris. Il est jeune, il n'a rien publié à l'époque. C'est plutôt qu'elle, en tant qu'étudiante qui maîtrise l'anglais, elle est en train de lire toutes les publications de la Renaissance de Harlem. Elle lit Langston Hughes, elle lit Claude McKay, elle lit Alain Locke, l'anthologie magistrale de Alain Locke, le New Negro, le nouveau, en fait, on pourrait traduire le nouveau nègre ou le nouveau noir. Mm. Il y a toute une question là-dedans. Mais elle l'a lu en anglais, et elle a même, avec sa sœur Jeanne, elles écrivent à Alain Locke en proposant de le traduire, le livre. Donc, elle est dans la littérature noire américaine.
Écoutez comment Louis Achille, le cousin des sœurs Nardal, qui les a fréquentées à Paris, décrit la manière dont les Parisiens percevaient les sœurs Nardal.
Les gens de couleur à Paris étaient encore, à l'époque, victimes de certains préjugés, surtout des préjugés assez superficiels de Parisiens, qui, en voyant passer, par exemple, des femmes comme Paulette Nardal, eh bien, ou ses sœurs, ou d'autres étudiantes colorées de la Sorbonne, c'est vrai, oh la belle blonde. Il faut avouer qu'après la réussite de Josephine Baker, on les appelait Joséphine. C'était déjà un progrès, car Joséphine était adulée du public parisien.
Un document exceptionnel, la voix de Louis Achille dans La Marche du Monde sur RFI, cousin des sœurs Nardal, qui les a vues se promener dans les rues à Paris et ignorer totalement les regards racistes et les paroles racistes à leur encontre. Cette arrivée en métropole est donc une expérience hyper décisive pour les sœurs Nardal, puisqu'elles prennent soudain conscience du fait qu'elles sont noires. Évidemment, quand on est aux Antilles, on est noir au milieu des noirs. Quand on est en Afrique, on est noir au milieu des noirs. Et c'est à Paris où, d'un seul coup, on a ce regard des blancs sur soi, curieux ou méprisant, et ces préjugés exotisants des Parisiens qu'elles rencontrent. Pour Paulette, comme pour Jane, c'est donc sur le terrain des préjugés, c'est-à-dire des représentations culturelles essentialisantes et souvent dégradantes, qu'il faut mener bataille. Écoutez comment Jane, dans un texte publié dans la Dépêche africaine en octobre 1928, un texte intitulé « Pantin exotique, que j'adore », analyse l'image de la femme noire dans la culture coloniale francophone et réfléchit aux moyens de la subvertir.
De la puissance d'évocation de certains mots, le créole qui a séjourné en France peut facilement se rendre compte. Vient-on à savoir que vous êtes exotique, vous suscitez un vif intérêt, des questions saugrenues, les rêves et les regrets de ceux qui n'ont jamais voyagé. Quelle déception pour celui qui évoque en votre honneur des princesses exotiques si vous alliez lui dire que tout comme une petite bourgeoise française, vous poursuivez à Paris des études commencées là-bas, sous les tropiques, au lycée. Pourtant, il semble que la boîte aux accessoires exotiques soit bouleversée, ou du moins qu'à ce poncif qui date de Bernardin de Saint-Pierre, un autre ait succédé. Joséphine vint.
Joséphine Baker s'entend, et troua le décor de toile peinte à la Bernardin. Voilà que Bondy enseigne une femme de couleur, aux cheveux laqués, à l'étincelant sourire. Elle est bien encore vêtue de plumes ou de feuilles de banane, mais elle apporte aux Parisiens les derniers produits de Broadway. Charleston, jazz. La transition entre le passé et le présent, la soudure entre la forêt vierge et le modernisme, ce sont les Noirs américains qui l'accomplissent et la rendent tangible. Mais me direz-vous, cette existence haute en couleurs, il est vrai trépidante, grisante, qu'a-t-elle de commun avec la nôtre aux grâces tranquilles, aux danses lentes, sinon le décor ? Que les Noirs créoles n'aillent pas s'étonner puisque, nouveau Poncifilia, d'être ainsi croqués par les reporters et des écrivains pressés de généraliser. Nous prononcerons-nous entre ces deux poncifs ? À quelle sauce voulons-nous être mangés ? À la sauce idéaliste ou à la sauce réaliste ? Voici la bonne réponse. Les romanciers américains de couleur, congédiant leurs peintres, se sont mis eux-mêmes à l'ouvrage. Nous verrons quelques jours s'ils y ont mieux réussi.
À quelle sauce voulons-nous être mangés ? C'est culotté et c'est signé Jane Nardal.
J'adore Pantin exotique, ce texte extraordinaire de Jane Nardal. Ce qu'il faut comprendre, elle se retrouve entre deux pièges. Déjà, il y a la piège de doudou, des exotismes, des vieilles colonies, oh, c'est tellement la vie de cocagne, tout ça.
La doudou avec ses jupes et ses volants en madras, lascive, tout le stéréotype de la femme antillaise.
Voilà. Et de l'autre côté, on a l'arrivée de Josephine Baker qui en fait définit la culture moderne avec le jazz sur scène en train de danser, qui est un peu l'icône de ce que ça veut dire d'être moderne. Mais c'est compliqué parce qu'elle est nue sur scène ou en train de porter une jupe de banane. Érotisme spectaculaire que, si on peut imaginer, en tant que jeune étudiante à la Sorbonne qui veut être intellectuelle, on ne veut pas se déshabiller ou être vu comme seulement être à dévorer dans une manière sexuelle. Aussi, il y a des complexités au niveau impérial chez Joséphine. C'est là-dedans, dans son profil. Si on pense à « J'ai deux amours », la chanson peut-être la plus connue de Joséphine Baker, elle incarnait pour certains Français l'esprit colonial. Elle était même demandée d'être la reine de l'exposition coloniale de 1931. La boîte des accessoires exotiques, on est toujours là-dedans.
Jane Nardal écrit « Les romanciers américains de couleur, congédiant leurs peintres, se sont mis à l'ouvrage. » Est-ce que ça veut dire que les Noirs américains ont décidé d'écrire leur propre histoire ? Est-ce que ça veut dire qu'on peut considérer que les écrits de fiction de Paulette sont aussi un moyen de produire d'autres représentations de la femme noire qui échapperaient au cadre colonial ?
À mon avis, c'est ça. Et si on lit dans l'anthologie, surtout les récits et les fictions, il y a un qui s'appelle « En exil », il y a un autre récit qui s'appelle « Histoire martiniquaise », Guignol Wolof, qui est le petit texte qu'elle a publié dans « L'étudiant noir » de Césaire et Senghor. Tout ça, c'est des femmes noires à la métropole. C'est des fictions, des récits qui essaient d'imaginer ce juste milieu, cet endroit qui est à l'aise, qui est entre les deux, qui n'est pas piégé par la boîte de stéréotypes, d'accessoires exotiques.
Dans ces années 20 et 30, où Paris est un lieu de bouillonnement culturel intense, est-ce que les Sœurs Nardal vont aussi chercher à mettre en avant d'autres formes d'expression culturelle noire pour déroger à ces préjugés coloniaux? Je pense par exemple à la musique ou à la danse, qui sont également évidemment des outils d'expression.
Les Sœurs Nardal, elles ont beaucoup travaillé avec la musique, surtout plus tard. Paulette Nardal, après son retour à Martinique, aura une chorale, la joie de chanter, qui existe toujours. Elle a beaucoup travaillé et s'intéressé surtout à la musique populaire et folklorique des Antilles, comme la biguine, qui était une musique très populaire de l'époque, mais aussi aux musiques de la diaspora, telles les spirituals, à la musique religieuse des Noirs américains. Paulette a écrit un article où elle parle des rapports et des différences entre des musiques noirs américains, comme le spirituals ou le blues et le jazz, et les musiques antillaises, comme la biguine.
Donc, Paulette Nerdal s'intéresse aux différentes formes de musique. Elle s'intéresse aussi à des lieux où se pratique la musique.
Il y avait des boîtes de nuit. Déjà, il y avait des boîtes assez connues de jazz et de biguine et de tango à Paris de l'époque, surtout à Montmartre et après à Montparnasse, où il y a des expatriés noirs américains qui sont venus, des Argentins, des Antillais qui sont venus jouer de la musique. Elle s'intéresse, elle écrit plusieurs articles là-dessus. Elle s'intéresse surtout moins sur des boîtes de jazz, plus sur les boîtes de biguine. Ça s'appelait le bal nègre. Il y avait un bal nègre de la glacière qui existait à la fin des années 20. Et Paulette Nerdal, elle écrit un article là-dessus. Il y a un autre bal nègre qui s'ouvre à la fin des années 20, rue Blomet. Et elle écrit des articles là-dessus. Et elle essaie, dans une manière journalistique, de décrire les milieux et de penser la position de femme dans les milieux. Et elle essaie de voir, est-ce qu'il y a une place pour la femme noire qui n'est pas exotisée, qui n'est pas sur scène en train de se dévoiler, en train de se déshabiller, en train d'être érotique, mais de s'amuser peut-être, d'être à côté. Il y a un que j'adore où elle évoque une femme qu'elle a vue une nuit qui danse seule. Elle n'a pas besoin d'un partenaire. Il n'y a pas de partenaire ce soir-là qui était à la hauteur, elle dit, de cette femme. Elle danse seule.
Des femmes qui peuvent même danser seules, que ce soit au bal nègre ou au bal blomé, sur la biguine, un genre musical qui émerge durant les premières années du XXe siècle aux Antilles, en même temps que le jazz aux États-Unis. À la fin des années 20, des musiciens martiniquais amènent d'ailleurs cette musique en France, et le plus célèbre d'entre eux s'appelle Alexandre Stelliot, il est clarinettiste, c'est une figure reconnue dans les cercles noirs francophones de Paris, et Stelliot était spectaculaire sur scène, raconte Paulette Nerdal, c'est pas seulement sa bouche qui lui sert à propager cette cadence unique, c'est tout son corps, ses yeux, sa tête, qu'il tourne de droite à gauche, son cou, ses épaules, son pied droit, qui marque les temps, tant lui dégage une telle intensité, une telle puissance d'entraînement, que l'on n'a plus qu'à se laisser emporter par le rythme fougueux de la biguine. Cependant, ce diable d'homme arrive à garder un air de gentleman. Thank you. Vous êtes bien sur RFI à l'écoute de La Marche du Monde. On écoute Le Serpent Maigre d'Alexandre Stelio. C'est un choix musical de notre invité Brent Hayes Edwards, puisque notre émission est consacrée aux pionnières de la conscience noire dans le monde francophone, j'ai nommé les sœurs Nardal, des autrices qui suscitent enfin une actualité éditoriale en France, avec vous, Brent Hayes Edwards, mais aussi avec Léa Mormin-Chauvac, autrice de la toute première biographie consacrée aux sœurs Nardal et co-autrice du documentaire « Les sœurs Nardal, les oubliées de la négritude » diffusé en 2023 sur France 5, un film qui a permis à un large public de découvrir ces figures. Et c'est aux Antilles que Léa Mormin-Chauvac organisait le 7 mai 2024 une soirée autour de Paulette et Jane Nardal, une soirée qui a fait la part belle à toutes les formes d'expression culturelle que les sœurs Nardal se sont appropriées. Écoutez, chers auditeurs, la carte postale sonore que Léa a fait parvenir depuis le Lamantin, en Martinique.
Bonjour Valérie, une petite carte postale de la Martinique et plus particulièrement du Lamantin pour vous raconter la soirée d'hier soir. C'était une soirée particulière pour moi puisque je présentais la biographie des sœurs Nardal que j'ai écrite pour les éditions Autrement. Et cette biographie, je la présentais aux côtés de Valériane Edmond-Mariette, qui est historienne et qui, elle, représentait les éditions Roadbook Creek, qui font paraître la première anthologie de textes de Paulette Nardal. C'était une soirée particulière parce qu'on a pu accueillir la chorale Joie de chanter en introduction. Cette chorale, elle a 70 ans cette année et elle a été créée par Paulette Nardal. On était très contentes qu'ils acceptent comme ça au pied levé d'être présents avec nous. C'était émouvant aussi parce qu'ils ont chanté des morceaux qui ont été écrits par Paulette Nardal, enfin harmonisés par Paulette Nardal. Et il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Timon Mai, qui est un spiritual qu'elle a écrit, que Gilbert Gracian a écrit. Le poète Gilbert Gracian l'a écrit et elle l'a harmonisé. Et je l'aime beaucoup parce qu'il a deux sens. Il raconte à la fois la mort d'un enfant sur la route, mais aussi le meurtre d'un émeutier en 1959 par la gendarmerie. En Martinique, on redécouvre vraiment l'héritage des sœurs Nardal, tout autant qu'en France en fait. C'est assez étonnant au début, quand j'ai commencé à travailler sur leurs œuvres il y a 4 ans. Je pensais qu'en fait elles étaient quand même plus connues en Martinique. Et finalement, peut-être qu'aujourd'hui elles sont encore plus connues en France hexagonale qu'en Martinique. Alors du coup, c'était vraiment un travail de présentation de leur parcours, de leurs œuvres. C'est ce qu'on a fait avec Valériane, on était modérés par Jean-Élie Fontaine qui nous a vraiment aidés et guidés comme ça tout au long de la présentation. Il y avait un public très, très attentif, très passionné, très curieux, j'ai l'impression aussi, parce que tout ça était vraiment à découvrir. On était dans les jardins de l'Office de la culture du Lamantin et c'était vraiment un moment important pour moi parce que à chaque fois que je présente que ce soit le documentaire que j'ai coécrit et qui a été réalisé par Marie-Christine Gambard en 2023 ou la biographie aux éditions Autrement, je me rends compte qu'il y a toujours des nouveaux points d'enquête. C'est-à-dire qu'en fait, cette histoire, elle est tellement peu explorée que finalement, et ça je pense que Brent Hayes Edwards le dit très bien aussi, on finit par toujours découvrir des nouvelles strates, des nouvelles couches, des nouvelles archives aussi. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, je crois. En fait, de dire que c'est une enquête qui continue et qui n'a pas beaucoup de matière pour l'instant. C'est-à-dire que ça reste un mystère, finalement. Même à la fin de l'écriture d'une biographie, la vie des sœurs Nardal, elle reste en grande partie mystérieuse pour moi. Ce qui est intéressant aussi en Martinique, c'est de confronter leur oubli au présent. Et en fait, ça met vraiment en face du travail mémoriel qu'on a besoin de faire en Martinique. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne aussi. C'est pour ça que j'aime vraiment présenter les travaux que je mène sur les sœurs Nardal en Martinique, et ça me paraît essentiel.
Vous êtes bien à l'écoute de La Marche et du Monde, votre émission consacrée cette semaine à l'histoire de deux grandes figures oubliées de la modernité noire, Jane et Paulette Nardal. Avec notre invité Brent Hayes Edwards, nous avons vu comment, en arrivant en métropole, les Nardal ont développé une conscience de race qui préfigurait la négritude des Césaires, Senghor et Damas. Prenant conscience des dominations qu'engendraient les préjugés de couleur en métropole, les Nardal ont entrepris d'analyser les représentations culturelles qui les soutenaient, et elles se sont efforcées de construire et de mettre en avant d'autres modèles en tordant le cou aux préjugés. Alors, est-ce que pour vous aussi, Brent Hayes Edwards, professeur à Columbia, ça en impose, les sœurs Nardal restent un mystère, comme pour Léa Mormin-Chauvac?
Je crois qu'elle a raison qu'il y a des choses encore à découvrir chez les Nardal. C'était tout un travail de faire l'anthologie parce que, en fait, il n'y a pas d'archives facilement accessibles familiales. La famille a subi un incendie dans la maison à Fort-de-France en 1956, où ils ont perdu les archives de la famille. Mais pour les écrits de Paulette Nardal, je suis convaincu qu'il y en a encore. Je continue à chercher des écrits de Paulette Nardal. Et pour moi, dans ce qu'on a trouvé, il y a des questions qui restent. Ces enjeux politiques, surtout autour de la guerre d'Éthiopie, quand l'Italie fasciste de Mussolini envahit l'Éthiopie en 1935, Paulette Nardal, elle écrit des articles très pointus d'un point de vue politique.
Donc on dit toujours, elle n'a pas une aura politique comme un Césaire. Bon, c'est un peu dur de prendre Césaire comme étalon, parce que Césaire était véritablement un animal politique. Mais si elle s'intéresse à la tentative de colonisation de l'Éthiopie par l'Italie, c'est qu'elle a une conscience politique.
C'est sûr. Et ça se montre dans ces articles-là. Même avant, dès 1924... Elle est vue, j'ai lu des extraits des rapports des espions de surveillance qui décrit Paulette Nardal dans des meetings, dans des rendez-vous de gauche, de communistes avec les communistes. Donc l'idée de perdre un des seuls États noirs, c'est une menace énorme pour les Noirs du monde entier. Et à Paris, c'est Paulette Nardal qui est à la tête des manifestations, des efforts d'organiser les Noirs pour protéger l'Éthiopie.
Cet internationalisme noir que vous pensez à votre tour, Brent Hayes Edwards, à partir de la notion de diaspora, dans votre étude pratique de la diaspora publiée aux éditions Rodebow Creek, il est néanmoins traversé par des non-dits, des incompréhensions, des méprises peut-être, voire des contradictions. Et c'est justement cette difficulté et en même temps la nécessité qu'il y a à faire l'expérience d'une identité noire commune, au-delà des barrières de genre, de classe, qu'exprime de manière sans doute très pertinente la nouvelle Guignol Wolof, publiée en 1935 par Paulette Nardal.
Heures du soir, avant le théâtre, quick lunch dans un café du quartier latin qui illumine le bariolage barbare des tubes de néon. Tout à coup, entre la lumière et moi, s'interpose la silhouette d'un noir immense. Costume de général d'opérette, drap noir sur lequel éclatent des brandebourgs imposants. Épaulettes, casquette plate d'officier allemand, galonnée d'or et de rouge, et détail encore plus inattendu, monocle à cordonnet noir encastré dans l'arcade sourcilière gauche. Ce détail incongru dans ce costume absurde
n'arrive pas à donner au long visage wolof l'effet de grotesque recherché. Pris en lui-même, il me rappelle curieusement certains visages blancs, au sourire grave et à l'air infiniment noble. Mais l'ensemble est indéniablement comique, et quand passe à côté de notre chasseur noir, vendeur de cacahuètes, son collègue métropolitain éphèbe blond, à la sobre livrée marron, et qui vend, lui, des cigarettes, le contraste est simplement révoltant. Révoltant, du point de vue d'une noire antillaise trop occidentalisée, peut-être. Mais ce noir caricatural est là pour la plus grande joie des consommateurs blancs. Et quelle magnifique réclame il représente pour l'établissement en question. Il s'approche de notre table. Il va nous parler. Tous les yeux sont braqués sur nous. Allons-nous contribuer, nous aussi, à amuser un moment les blancs désœuvrés ? Ou allons-nous, comme telle mulâtresse antillaise, nous enfuir à la vue de ce noir grotesque, le cœur plein de ressentiment contre ce congénère sans dignité et son employeur blanc ? Ou encore prendrons-nous des airs pincés et affecterons-nous de ne pas le voir ?
Guignol Wolof, une nouvelle signée Paulette Nardal. J'aimerais beaucoup, Brent Hayes Edwards, que vous puissiez nous dire, au fond, quelles sont les limites peut-être de cet internationalisme noir. Qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible entre noirs?
C'est une manière très intéressante de l'aborder à la question d'un internationalisme noir dans ce petit récit, qui est nuancé, qui est subtil. Ça, c'est l'article de récit qu'elle publie dans l'étudiant noir, dans la revue de Aimé Césaire, Léopold Senghor, donc les débuts de la négritude. Elle nous fait confronter la question de comment est-ce qu'on peut imaginer une manière de se comprendre, une manière d'échanger entre noirs positionnés différemment dans la diaspora. Il y a l'Africain qui est en train de travailler dans le café. Ce qui est révoltant, c'est le contraste entre lui et l'autre, le blanc qui est à côté de lui. Mais elle se trouve encore piégée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment est-ce qu'on peut imaginer une manière où un Africain dans une petite position telle,
un Africain dans une position de serviteur et en plus caricaturé.
Un échange entre un Africain dans cette position-là et une Martiniquaise bourgeoise, éduquée, assimilée, qui est là avant le théâtre pour prendre un café. On n'est pas au théâtre des Champs-Élysées, on n'est pas dans une boîte de nuit, mais on est quand même sur scène. On est là, dans une certaine manière, devant le public blanc qui attend, ah oui, on va voir une tension entre l'Africain et l'Antillaise. On va voir l'évoluer, l'Antillaise avec ses airs, avec sa snobberie, qui a du mal à parler à l'Africain devant elle. Et elle nous demande, dans le petit récit, d'imaginer comment il pourrait s'approcher sans être sur scène. Comment il puisse se parler? Et pour moi, c'est une question de dialogue, c'est une question de traduction, c'est une question très subtile, très compliquée, et pour moi, c'est la question de la diaspora.
Et c'est aussi tout simplement une question de classe sociale?
Oui, bien sûr, parce qu'ils sont différemment placés. L'Africain qui travaille dans le café et la jeune antillaise qui est là pour s'amuser avant le théâtre. C'est aussi une question de genre, parce que c'est un mec qui est là en train de travailler et c'est une jeune femme qui est là devant lui. Il y a quelque chose, une partie de la tension, c'est une question de la différence entre hommes et femmes.
Jane et Paulette Nardal, ou la modernité noire, c'est une pensée qui fait événement dans le monde de l'édition. Mais est-ce que la modernité des sœurs Nardal, elle est toujours d'actualité, un siècle après?
J'espère que oui. Et j'imagine, je crois, dans un moment où on vient de panthéoniser Joséphine Baker, où on a toujours des problèmes raciaux, des questions très difficiles par rapport à la politique de l'immigration, par exemple, en France, à la question de race, à la question des violences, des morts des jeunes africains et nord-africains aux mains de la police. En France, on a des questions très difficiles politiques en ce moment, et parfois, c'est les mêmes questions. On peut, j'espère que ce public à venir, ces lecteurs à venir, vont trouver des modèles, des histoires utiles dans les exemples des sœurs Nardal.
Merci, et merci beaucoup pour votre français.
Merci à vous.
S'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde, consacré aux sœurs Nardal. Un épisode signé Valérie Nivelon, Nicolas Pichon-Lovenbruck et Sophie Janin. Précipitez-vous sur les livres « Écrire le monde noir » de Paulette Nardal et « Pratique de la diaspora » de Brent Hayes Edwards, paru aux éditions Roadbook Rick. Et n'oubliez pas la biographie des sœurs Nardal, paru aux éditions Autrement. N'hésitez pas à réagir, bien sûr, sur nos réseaux sociaux Twitter et Facebook. Vous pouvez également nous retrouver, vous le savez, sur l'application RFI Pure Radio. Nous sommes dans la rubrique « Histoire ». Podcastez cette émission, c'est la vôtre.
Les sœurs Nardal, phénomène éditorial. C'était le sixième épisode de notre collection thématique African Queens. Dans le prochain épisode, vous découvrirez le combat de Marie-Cécile Zinsou, pionnière de l'art contemporain, engagée pour la restitution de l'identité et de la culture au Bénin, à écouter sur RFI.fr, RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.